Catéchisme de Trente, chapitre 45e, la sixième demande de l'oraison dominicale, et ne nous induisez point en tentation. Lorsque les enfants de Dieu ont obtenu la rémission de leurs péchés, ils se sentent embrasés du désir de lui rendre l'adoration et le culte qu'il mérite. Ils soupirent après le royaume céleste, ils s'acquittent fidèlement envers la majesté divine de tous les devoirs de la piété. Et ils en viennent à être soumis à sa volonté paternelle et à sa sainte providence. Mais c'est alors aussi, cela est bien connu, que l'ennemi du genre humain déploie tous ses artifices, met en œuvre toutes ses ruses et apprête toutes ses machines de guerre pour les attaquer. Il y a donc lieu de craindre que leur résolution ne soit ébranlée et changée, qu'eux-mêmes ne retombent de nouveau dans le mal et ne deviennent pires qu'auparavant. C'est d'eux que le prince des apôtres a pu dire avec raison, il eût mieux valu pour eux qu'ils n'eussent point connu la voie de la justice, que de retourner en arrière après l'avoir connue, et d'abandonner la loi sainte qui leur avait été donnée. Paragraphe 1er. Pourquoi Jésus-Christ nous a ordonné cette sixième demande. Aussi notre Seigneur Jésus-Christ nous a-t-il fait de cette prière un commandement, afin de nous obliger à implorer tous les jours le secours de Dieu, et à nous recommander à sa bonté paternelle. Car il n'est pas douteux, s'il vient à nous abandonner, que nous nous soyons bientôt pris dans les filets de nos perfides ennemis. Et ce n'est pas seulement dans l'oraison dominicale que Jésus-Christ nous a ordonné de demander à Dieu de ne pas nous induire en tentation. Il a porté le même commandement dans cet entretien qu'il eut avec ses apôtres quelques heures avant sa mort. Après leur avoir dit en effet qu'ils étaient tous purs, il ajouta, priez pour que vous n'entriez point en tentation. Ce double commandement de notre Seigneur est pour les pasteurs un motif très pressant d'exhorter avec le plus grand soin les fidèles à réciter fréquemment cette prière. Puisque le démon, notre ennemi, sème à toute heure sous nos pas les plus terribles dangers, il faut qu'à toute heure aussi nous puissions nous adresser à Dieu, qui seul peut nous en préserver, et lui dire « Ne nous induisez pas en tentation. » Or les fidèles comprendront parfaitement tout le besoin qu'ils ont de l'assistance divine s'ils se souviennent de leur faiblesse et de leur ignorance, s'ils se rappellent cette maxime de notre Seigneur Jésus-Christ « L'esprit est prompt et la chair est faible. » Et s'ils considèrent enfin que nos chutes avec la malice et la haine du démon sont presque toujours graves et mortelles si la main de Dieu ne nous soutient. Quel exemple plus sensible de la faiblesse humaine que celui du collège sacré des apôtres. Ils avaient fait preuve de la plus grande fermeté, et un instant après, au premier péril, ils abandonnent le Seigneur et prennent la fuite. Exemple plus frappant encore, saint Pierre, le prince des apôtres, avait tiré de son cœur une magnifique profession de courage, et en même temps de l'amour le plus sincère pour Jésus-Christ, il avait dit, plein de confiance en ses propres sentiments, « Quand même, il me faudrait mourir avec vous, je ne vous renierai point. » Et une heure plus tard, à la voix d'une servante, il se trouble, et va jusqu'à jurer qu'il ne connaît point le Seigneur. Ses forces à coup sûr ne répondaient pas à la vivacité de ses sentiments. Mais si les hommes les plus saints ont été victimes de la fragilité humaine, dont ils ne se défiaient pas assez, et sont tombés dans les fautes les plus humiliantes, que ne doivent pas craindre les autres qui sont si éloignés de leur sainteté. Paragraphe 2. Des tentations et de leurs causes. Il importe donc que les pasteurs montrent bien aux fidèles les dangers et les combats auxquels nous sommes sans cesse exposés tant que notre âme habite dans ce corps mortel. La chair, le monde et le démon nous attaquent de toutes parts. Quel est celui qui ne connaît point à ses dépens les effets de la colère ou de la cupidité, qui ne s'est senti blessé de leurs traits, déchiré de leurs aiguillons et brûlé de leurs flammes? En effet, les coups qu'elles frappent sont si variés, leurs attaques si diverses, qu'il est bien difficile de ne pas recevoir quelques graves blessures. Mais outre ces ennemis qui habitent et vivent avec nous, il en est d'autres plus terribles encore, dont il est écrit: Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les maîtres des ténèbres de ce monde, contre les esprits de malice répandus dans les airs. Aux combats intérieurs se joignent les attaques et les coups des démons, qui tantôt se précipitent sur nous à découvert, et tantôt se glissent si furtivement dans nos âmes que nous pouvons à peine nous en défendre. Paragraphe 3. Les démons. L'apôtre les appelle princes à cause de l'excellence de leur nature. Par ce côté, ils l'emportent en effet sur l'homme et sur toutes les autres créatures. Il les nomme aussi puissances, parce qu'ils nous surpassent non seulement par la supériorité de leur nature, mais encore par leur réel pouvoir. Puis il les nomme maîtres des ténèbres de ce monde, parce qu'ils régissent non pas le monde de la lumière et de la clarté, c'est-à-dire les bons et les justes, mais le monde sombre et obscur, c'est-à-dire ceux qui vivent plongés dans les souillures d'une vie criminelle, aveuglés par leurs passions ténébreuses, et sans autre guide que le démon, ce prince des ténèbres. Il les nomme enfin esprits de malice, parce qu'il y a une malice de l'esprit, comme il y a une malice de la chair. La malice de la chair allume les appétits déréglés des passions et le désir des voluptés sensibles. La malice de l'esprit se confond avec les passions et les inclinations dépravées de l'homme, mais qui toutefois appartiennent à sa partie supérieure. Elles sont d'autant plus dangereuses et plus criminelles que la raison et l'esprit sont au-dessus de la nature et des sens. Et comme la malice de Satan a pour but principal de nous priver de l'héritage du ciel, l'apôtre a ajouté à cause de cela qu'ils sont répandus dans l'air. Il n'est que trop aisé de conclure de là que nos ennemis sont forts et redoutables, qu'ils ont une ardeur invincible et sont animés contre nous d'une haine furieuse et inimaginable. Aussi bien ils nous font une guerre sans relâche, sans paix ni trêve possible. Leur audace est incroyable. Nous pouvons en juger par cette parole que le prophète fait dire à Satan « Je monterai au ciel ». Au surplus, le démon a attaqué nos premiers parents dans le paradis. Il a livré combat au prophète. Il a cherché les apôtres pour les cribler comme le froment. C'est l'expression même de notre Seigneur dans l'Évangile. Il n'a pas même rougi de tenter Jésus-Christ. L'apôtre saint Pierre a donc bien exprimé ses désirs insatiables et son activité inouïe quand il a dit « Le démon, votre ennemi, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Et Satan n'est pas seul pour attaquer les hommes. C'est en troupe quelquefois que les démons fondent sur chacun de nous. On le vit bien par l'aveu de celui à qui Jésus demanda « Quel est ton nom ?» et qui répondit « Mon nom est Légion ». C'est-à-dire qu'une multitude de démons tourmentait ce malheureux. Et puis l'Évangile ne dit-il pas d'un autre démon qu'il prend avec lui sept autres esprits, plus méchants que lui, qu'ils entrent dans la maison, c'est-à-dire dans l'âme, et qu'ils y habitent. Il n'est pas rare de rencontrer des chrétiens qui, ne sentant pas en eux-mêmes ces attaques du démon, s'imaginent que notre doctrine est fausse. Mais peut-on s'étonner que les démons n'attaquent point des hommes qui se sont volontairement donnés à eux, et dans lesquels on ne trouve ni piété, ni charité, ni aucune vertu digne d'un chrétien? Ils appartiennent entièrement à Satan. Comment aurait-il besoin de les tenter pour les vaincre, puisque de leur plein consentement ils règnent déjà dans leur cœur? Mais ceux qui se sont consacrés à Dieu et qui mènent sur la terre une vie toute céleste sont plus que tous les autres en butte aux assauts du démon. C'est pour eux qu'il réserve toute sa haine. C'est contre eux qu'à chaque instant il dresse des pièges et des embûches. L'histoire sainte est pleine d'exemples de grands et vertueux personnages qui, même en se tenant sur leur garde, ont été victimes de sa rage ou de sa duplicité. Adam, David, Salomon et tant d'autres qu'il serait trop long de citer ont éprouvé la violence de ses attaques et la perfidie de ses ruses, auxquelles ni la prudence ni les forces humaines ne sauraient résister. qui oserait après cela se croire en sûreté avec ses seules forces. Demandons donc à Dieu avec foi et pureté de cœur qu'il ne permette pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces, et qu'il nous donne dans la tentation le secours de son assistance afin que nous puissions résister. Mais s'il se rencontre des fidèles qui par faiblesse d'esprit ou par ignorance sont épouvantés de la puissance des démons, il faut leur persuader de se réfugier dans le port de la prière quand ils sont agités par les flots de la tentation. Car Satan, quelle que soit sa puissance, son obstination et sa haine contre nous, ne peut cependant nous tenter et nous tourmenter ni autant ni aussi longtemps qu'il le voudrait. Tout son pouvoir est subordonné à la volonté et au bon plaisir de Dieu. Qui ne connaît l'histoire de Job que Satan n'eût jamais touché si le Seigneur ne lui eût dit « Voilà que je te livre tout ce qu'il possède ». Mais si au contraire Dieu n'avait point ajouté « seulement n'étant pas la main sur lui », Satan lui fait périr d'un seul coup avec ses enfants et tous ses biens. Et même, Dieu a enchaîné tellement la puissance des démons que sans sa permission, il n'aurait pas pu passer dans ces pourceaux dont il est question dans l'Évangile. Mais pour mieux faire comprendre le sens et la portée de cette demande, nous avons expliqué ce que l'on doit entendre par tentation et par être induit en tentation. Qu'est-ce qu'être tenté et induit en tentation? Tenter, c'est mettre quelqu'un à l'épreuve pour tirer de lui ce que nous désirons savoir et par là connaître la vérité. On ne peut pas dire que Dieu puisse tenter en ce sens, car y a-t-il quelque chose qu'il ignore? Tout, dit l'apôtre, est à nu et à découvert devant ses yeux. Il y a une autre manière de tenter qui va beaucoup plus avant, c'est de mettre quelqu'un à l'épreuve, soit en vue du bien, soit en vue du mal. On tente un homme en vue du bien lorsqu'on l'éprouve dans le but de constater et de manifester sa vertu, afin de la récompenser ensuite par des avantages et des honneurs, de proposer son exemple à imiter aux autres, et par suite d'engager tout le monde à louer et à bénir le Seigneur. Cette manière de tenter est la seule qui convienne à Dieu. Et nous en trouvons un exemple dans le Deutéronome. « Le Seigneur, votre Dieu, vous tente, dit Moïse aux Hébreux, pour qu'il apparaisse visiblement si vous l'aimez. » On dit encore que Dieu tente les siens lorsqu'il les accable par la pauvreté, la maladie et autres calamités de ce genre. Mais il n'agit ainsi envers eux que pour éprouver leur patience et afin qu'ils deviennent pour les autres des modèles de vertu chrétienne. C'est ainsi que nous voyons Abraham tenté par Dieu lorsqu'il reçoit de lui l'ordre d'immoler son propre fils. Mais cet acte d'obéissance fait de lui un exemple immortel de soumission et de patience. C'est dans le même sens qu'il est dit de Tobie dans nos saints livres, « Parce que vous étiez agréable à Dieu, il était nécessaire que la tentation vînt vous éprouver. » On tente les hommes en vue du mal lorsqu'on les éprouve pour les pousser au péché ou à leur perte. Il appartient aux démons de nous tenter de la sorte, car ils ne s'adressent à nous que pour nous perdre et nous jeter dans le précipice. Aussi l'Écriture sainte l'appelle-t-elle d'un seul mot, le tentateur. Tantôt il excite en nous les désirs et les mouvements déréglés de nos passions et de nos affections mauvaises. Tantôt il nous attaque par le dehors et se sert des choses extérieures pour nous enorgueillir si elles sont mauvaises ou nous abattre si elles sont malheureuses. D'autres fois il a pour agent et émissaire des hommes pervertis et surtout des hérétiques qui sont assis dans la chair de pestilence et répandent le poison mortel de leur doctrine malsaine pour perdre entièrement les hommes qui ne font aucun choix et aucune différence entre le vice et la vertu et qui, de leur nature, ne sont déjà que trop enclins au mal et toujours prêts à succomber. Être induit en tentation, c'est succomber à la tentation. Or, nous y sommes induits en deux manières. Premièrement, lorsque, renversés par le choc, nous tombons dans le mal où veut nous jeter notre tentateur. En ce sens, Dieu ne tente et n'a jamais tenté personne, car il n'est l'auteur du péché pour personne. Au contraire, il déteste tous ceux qui commettent l'iniquité. Aussi bien, dit l'apôtre Saint Jacques, que personne ne dise quand il est tenté que c'est Dieu qui le tente, car Dieu n'est point tentateur pour le mal. On dit en second lieu que nous sommes induits en tentation par quelqu'un qui, sans nous tenter lui-même, sans même contribuer à nous tenter, passe cependant pour nous éprouver réellement, parce qu'il n'empêche ni la tentation ni la victoire de la tentation sur nous, bien qu'il le puisse. C'est de cette manière que Dieu permet que les bons et les justes soient tentés. Mais alors, il les soutient de sa grâce et ne les abandonne point. Quelquefois aussi, par un secret et juste jugement, si nos crimes le demandent, il nous abandonne à nous-mêmes et nous succombons. On dit encore que Dieu nous induit en tentation lorsque nous abusons pour notre malheur des bienfaits qu'il nous avait accordés en vue de notre salut. Et qu'à l'exemple de l'enfant prodigue, nous dissipons l'héritage de notre Père en vivant dans la luxure et en esclaves de toutes nos passions. C'est alors que nous pouvons nous appliquer ce que l'apôtre disait de la loi de Dieu. Il est arrivé que le commandement qui devait servir à nous donner la vie a servi à nous donner la mort. Jérusalem en est pour nous un exemple bien frappant. Au témoignage d'Ézéchiel, Dieu l'avait enrichi et paré de tous les genres d'ornements. Il lui disait par la bouche de son prophète : Vous étiez parfaitement belle de cette beauté que moi-même je vous avais donnée. Et cependant, cette ville, comblée de tous les bienfaits divins, bien loin de rendre grâce à Dieu des faveurs que l'on avait reçues, bien loin d'employer tous ses dons pour acquérir le bonheur du ciel, cette ville, par une horrible ingratitude envers son Père et son Dieu, repousse l'espérance et même la pensée du bonheur éternel, et ne songe dans l'abondance des biens terrestres qu'à s'abandonner au plaisir et à la débauche. Mais il faut lire tout le passage dans Ézéchiel. Cela ressemble à cette ville ingrate qui, pour offenser Dieu, se servent précisément des moyens si nombreux qu'il leur avait donnés de faire le bien. Mais il est un usage de la Sainte Écriture qu'il faut signaler avec soin. Pour exprimer ce qui n'est qu'une permission de la part de Dieu, elle emploie quelquefois des termes qui, pris à la lettre, désigneraient une action. Ainsi, il est dit dans l'Exode, « J'endurcirai le cœur de Pharaon ». Dans Isaïe, « Aveuglez l'esprit de ce peuple ». Dans l'Épître aux Romains, Dieu les a invités aux passions ignominieuses et à leur sens réprouvé. Dans ces passages et dans les autres semblables, il ne s'agit point d'une action positive de Dieu, mais d'une simple permission. Ceci bien compris, il ne sera point difficile de savoir ce que nous devons demander à Dieu dans cette sixième partie de l'oraison dominicale. Paragraphe 5. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu par ces paroles « Ne nous induisez point en tentation » Nous ne demandons point de n'être jamais tentés, car la vie de l'homme sur la terre n'est qu'une tentation. Et il nous est utile et avantageux qu'il en soit ainsi. C'est dans la tentation, en effet, que nous nous connaissons nous-mêmes, c'est-à-dire nos propres forces. C'est dans la tentation, par conséquent, que nous nous humilions sous la main puissante de Dieu, et que, combattant généreusement, nous méritons la couronne de gloire qui ne flétrira jamais. Car, dit saint Paul, celui qui combat dans la carrière ne sera couronné qu'après avoir légitimement combattu. Saint Jacques dit à son tour, « Bienheureux l'homme qui souffre la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime. Que si parfois la tentation de l'ennemi est trop pressante, nous penserons pour soutenir notre courage que nous avons pour nous aider un pontife qui peut compatir à nos infirmités, ayant été lui-même tenté et éprouvé en toutes choses. Que demandons-nous donc ici? Nous demandons d'être toujours assistés par le secours divin, afin de ne pas consentir à la tentation en nous laissant séduire par elle, et de n'y point céder non plus par faiblesse. Et si nos forces venaient à nous manquer, nous demandons que la grâce de Dieu soit toujours avec nous pour les réparer et les ranimer immédiatement. C'est pourquoi nous devons implorer le secours de Dieu d'une manière générale dans toutes les tentations, et quand l'une d'elles nous tourmente davantage, recourir contre elle à la prière et d'une manière très expresse. C'est ce que pratiquait David dans presque toutes ses tentations. Ainsi, contre le mensonge, il disait « N'ôtez point de ma bouche la parole de vérité. Contre l'avarice, inclinez mon cœur vers vos préceptes et non vers l'avarice. Contre les futilités de la vie et l'attrait des passions, détournez mes yeux pour qu'ils ne voient point la vanité. » En somme, nous demandons de ne pas obéir à nos passions, de ne pas nous lasser de résister aux tentations, de ne pas nous écarter de la voie du Seigneur, de conserver l'égalité d'âme et la constance dans les succès et dans les malheurs, de n'être jamais, en aucune manière, privé de la protection de Dieu. Nous le prions, enfin, d'abattre Satan sous nos pieds. Paragraphe 6. Les motifs et les moyens de résister aux démons. Le pasteur n'a plus maintenant qu'à exhorter les fidèles aux pensées et aux considérations qui doivent principalement accompagner cette demande. Dans cet ordre d'idées, rien de plus avantageux d'abord que de bien se pénétrer de la grande faiblesse de l'humanité, de nous défier de nos forces et de mettre en Dieu seul et en sa bonté l'espérance de notre salut. Si nous avons la sagesse de nous appuyer sur lui, nous ferons preuve, même au milieu des plus grands périls, d'un courage d'autant plus invincible que nous pourrons nous rappeler alors combien avons-nous, avec le même courage et avec la même confiance que nous, ont été retirés par Dieu lui-même, il faut dire le mot, de la gueule béante de Satan. N'avons-nous pas vu Joseph en butte à la passion insensée d'une femme, arraché par Dieu à ce pressant péril et élevé par lui au fête de la gloire? N'avons-nous pas vu Suzanne, victime innocente de véritables suppôts de l'enfer, sur le point de périr d'une mort infâme? Ne l'avons-nous pas vue, rendue par lui à la vie et à l'honneur? Sans doute il devait en être ainsi, car son cœur était plein de confiance dans le Seigneur. C'est aussi la gloire immortelle du saint homme Job d'avoir triomphé du monde, de la chair et du démon. Il est encore une foule d'autres exemples de ce genre dont le pasteur saura se servir pour inspirer aux fidèles cet espoir et cette confiance. Il importe également de ne jamais perdre de vue le chef que nous devons suivre dans ce combat acharné contre les tentations, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a montré comment on remporte la victoire. C'est qu'en effet, il a vaincu le démon. Il est cet homme plus fort qui survient, qui terrasse le fort armé et qui lui arrache ses armes et ses dépouilles. Voici ce que dit saint Jean de la victoire qu'il a remportée sur le monde. « Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. » Et dans l'Apocalypse, il est appelé le lion vainqueur, qui est sorti victorieux pour vaincre encore, parce que dans sa victoire, il a acquis à ses partisans le pouvoir de vaincre à leur tour. L'épître de saint Paul aux Hébreux est toute pleine des victoires des saints, qui par la foi ont vaincu les royaumes qui ont fermé la gueule des lions. Ces victoires que nous raconte l'histoire doivent nous faire penser à celles que les hommes remplis de foi, d'espérance et de charité remportent tous les jours dans ces combats intérieurs et extérieurs que leur livre le démon. Victoires si nombreuses et si belles que si nous pouvions les contempler de nos yeux, nous ne pourrions rien voir en même temps de plus fréquent et de plus glorieux. C'est en parlant de ces sortes d'ennemis et de leurs honteuses défaites que l'apôtre saint Jean a dit « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes très forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu l'esprit malin. » Ce n'est ni par l'oisiveté, le sommeil, le vin, la bonne chair et les plaisirs que l'on triomphe de Satan, mais par la prière, le travail, l'éveil, la tempérance et la vertu de pureté. Veillez et priez, est-il dit, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, afin de ne point entrer en tentation. Employons ces armes pour combattre et nous mettrons nos ennemis en fuite. Car ceux qui résistent aux démons le verront fuir devant eux. Cependant, à la vue de ces magnifiques triomphes des saints, prenons garde de nous complaire en nous-mêmes. que nul d'entre nous ne soit assez présomptueux pour s'imaginer qu'avec ses seules forces, il sera en mesure de résister aux tentations et aux attaques de l'ennemi. Non, ces succès-là ne sont point le fait de notre nature ni de l'humaine faiblesse. Les forces avec lesquelles nous terrassons les satellites de Satan, c'est Dieu qui nous les donne. Dieu qui a fait de nos bras comme autant d'arcs d'airain, qui dans sa bonté brise l'arc des forts et revêt de force les faibles, qui prend notre salut sous sa protection, dont la droite nous soutient, qui forme nos bras au combat et nos mains à la guerre. C'est donc à Dieu seul que nous devons rendre grâce pour nos victoires, car c'est par lui seul et avec son secours que nous pouvons vaincre. Saint Paul n'y manque pas. Grâce soit rendue à Dieu, dit-il, qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Après lui, la voix céleste de l'Apocalypse célèbre à son tour le triomphe de notre Dieu. Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu, et de la puissance de son Christ. Parce que l'accusateur de nos frères a été précipité et qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Remarquons encore un passage du même livre qui atteste la victoire que Jésus-Christ a remportée sur la chair et sur le monde. Ceux-ci combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. C'est assez sur les motifs et les moyens de vaincre le tentateur. Après ces explications, les pasteurs ne manqueront pas de montrer aux fidèles les couronnes que Dieu prépare aux vainqueurs et les récompenses infinies qu'il leur réserve dans l'éternité. Ce même livre de l'Apocalypse leur en fournira les preuves. Celui qui est victorieux, y est-il dit, ne sera point frappé de la seconde mort. Et ailleurs, celui qui sera victorieux sera ainsi vêtu de blanc, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Puis un peu après, Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur lui-même s'adresse en ces termes à saint Jean. Celui qui sera victorieux, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Puis encore, celui qui sera victorieux, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu moi-même et me suis assis avec mon Père sur son trône. Enfin, après avoir fait le tableau de la gloire des saints et de l'immensité de ces biens éternels dont ils jouiront dans le ciel, il ajoute « Celui qui vaincra possédera ces choses. » Copyright jésusmarie.com le 23 janvier 2010. Fichier placé sous licence Creative Commons. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.